Je vous invite à poursuivre ce culte avec quelques lectures bibliques qui nous aideront à mieux comprendre le sens de la croix et de la résurrection. Le baptême est un acte par lequel nous affirmons croire en Jésus-Christ mort et ressuscité. Le baptême est un acte par lequel nous vivons symboliquement la mort et la résurrection. Je vous invite à relire quelques textes qui nous disent ce que Jésus-Christ a vécu et qui nous aide à continuer à réfléchir à cette croix si étonnante. Romains 4, 21 à 25 nous dit la place centrale de la croix et de la résurrection dans l'Évangile et dans le salut qui nous est offert. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham qu'à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots « Dieu l'a considéré comme juste » n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits pour nous, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en Dieu qui a ramené d'entre les morts Jésus, notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Romains 4, 25 nous dit la place incontournable de l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour pouvoir nous rendre justes. La croix est donc le lieu de la grande victoire du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Folie pour certains, reconnaît l'apôtre Paul quand il écrit une lettre aux chrétiens de Corinthe. Elle est néanmoins pour nous, au cœur, élément crucial, c'est le cas de le dire, de tout ce qui nous permet d'être sauvés, d'être pardonnés. La croix seule n'aurait pas suffi pour que Jésus-Christ puisse nous accorder le salut. Il fallait aussi la résurrection, absolument nécessaire. Si Jésus-Christ était mort à notre place, sans ressusciter, nous n'aurions aucune preuve qu'il était vainqueur sur la mort. Et il aurait pu n'être qu'un homme particulièrement bon qui serait mort il y a 2000 ans à Golgotha. La résurrection est donc nécessaire. L'apôtre Paul explique cela quand il écrit aux Corinthiens, au 15e chapitre de sa première lettre. Il dit « Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, tout tombe. On ferait mieux d'aller profiter du soleil et d'aller nous promener. » L'apôtre Paul dit exactement cela. « Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, arrêtez toute votre démarche de disciple de Jésus-Christ. Ça ne tient plus. » Mais, dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ est ressuscité. Et il est apparu à des centaines de personnes, et l'apôtre Paul lui-même l'a vu en allant sur le chemin de Damas. Je relis le texte que j'ai lu rapidement tout à l'heure, Romains 6, qui nous dit que le baptême symbolise ces deux éléments incontournables de l'œuvre de Jésus-Christ. Romains 6, 3 à 5. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. La mort et la résurrection du Christ sont symbolisées quand je suis baptisé par mon ensevelissement de quelques secondes et ma résurrection de cet ensevelissement rapide. Un mot clé que nous avons dans ce texte, une idée clé, est l'idée de l'identification à Jésus-Christ. Nous nous identifions à celui qui s'est identifié à nous. Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans pour connaître la condition humaine et prendre notre place. Quand nous vivons le baptême, nous nous identifions à celui qui est venu s'identifier à nous. Un autre mot au cœur de la compréhension du salut est le mot substitution. Jésus-Christ est mort à notre place, expression que nous utilisons assez souvent. Expression très simple, réalité théologique, complexe, incroyable. Dieu a accepté la substitution. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, va reconnaître que ce n'est pas simple de penser, de comprendre que Dieu est juste quand il déclare juste des gens qui ne sont pas justes. On va le lire dans quelques minutes. Mais Jésus-Christ a vraiment pris notre place. Premier texte, Galates 3:13. Le Christ nous a libérés à un grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent « La malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre ». Une grave erreur serait de croire que Jésus-Christ n'a pas tout à fait vécu la mort et la malédiction. C'est nous qui vivons le symbole. Lui a vécu la réalité. Mes amis, c'est difficile à comprendre, mais Jésus-Christ a été maudit parce qu'Étienne Gros-Renault aurait dû être maudit. Et Galates 3:13 nous dit très clairement qu'il a été frappé de malédiction à notre place. Nous sommes au cœur de la substitution. Dieu a accepté que quelqu'un meure à ma place et que ça compte pour moi. Quelqu'un a accepté qu'il soit condamné à ma place et que ça compte pour moi. Un juge n'est pas obligé d'accepter cela. Dieu l'a voulu. Deuxième texte dans Romains 3. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunir les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Quelques remarques concernant la dernière phrase en particulier. Dieu veut être juste en rendant juste ceux qui croient en Jésus. Et si nous avons bien lu ce qui précède, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne dans cette salle ne pouvait être devant Dieu sans être au bénéfice du pardon. Et cette dernière phrase nous dit que Dieu a trouvé le chemin pour être juste, tout en déclarant juste des gens qui ne sont pas justes. Vous me suivez ? Suivez l'apôtre Paul surtout. Dieu a pu trouver le chemin pour être juste, tout en déclarant juste des gens qui ne sont pas justes, parce que Jésus-Christ a été condamné à leur place. Nous sommes au cœur de la substitution. Et Dieu est juste parce qu'il a patienté pour tous les péchés d'avant Jésus-Christ, Abraham, David et tous les autres. Et ce texte nous apprend ce que nous n'avions peut-être pas tout à fait deviné tout seul, que les péchés d'Abraham et de David étaient en attente de traitement. Malgré tous les sacrifices offerts pendant toute la longue période de l'histoire du peuple d'Israël, les péchés de ces gens-là étaient en attente. C'est ce que Paul dit. Et c'est vrai, on comprend bien que les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas suffire. Tous ces péchés étaient donc en attente et il fallait que Jésus-Christ soit condamné pour de vrai, pour que Dieu soit juste, tout en déclarant juste tous ces croyants de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, d'avant Jésus-Christ et d'après Jésus-Christ, qu'ils déclarent juste et pur, alors qu'ils ne le sont pas, si ils le deviennent, par Jésus-Christ qui a pris leur condamnation et qui leur offre sa pureté et sa justice. Nous sommes donc devant un échange incroyable. Il a pris notre culpabilité et il nous donne son statut d'homme pur. Il a pris tout ce qui faisait de nous des êtres sales et il nous offre un vêtement blanc, un vêtement pur. La victoire remportée à la croix est affirmée par d'autres textes que je vais lire maintenant en terminant. La bonne nouvelle de la victoire vraiment acquise par Jésus-Christ. Colossiens 2, versets 13 à 15. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Mes péchés sont pardonnés ? Vraiment ? Tous ? Vraiment ? Même lui ? Même l'autre ? Oui. Parce que l'acte qui les recensait tous a été cloué à la croix. Il a annulé le document qui nous accusait. Dieu a voulu, par Jésus-Christ, réconcilier toutes choses, tant sur la terre que dans le ciel, nous dit le même apôtre Paul dans un autre texte. Celui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix nous a vraiment libérés de la condamnation qui pesait sur nous. C'est par ses blessures que nous sommes guéris, comme Ésaïe l'avait annoncé et comme tous ces textes le commentent. C'est clair. Jésus-Christ est mort, condamné, à la place de tous ceux qui auraient dû l'être. Il est ressuscité, victorieux, nous ouvrant la voie pour une vie nouvelle. Que Dieu nous parle. Nous sommes probablement nombreux dans cette salle à avoir entendu cela beaucoup de fois. Si quelques-uns l'entendent pour une des premières fois, que Dieu vous aide à le recevoir. Si certains l'entendent pour la xème fois, que Dieu nous aide, je m'implique, à le recevoir encore. Que toute cette doctrine de l'œuvre de Christ à la croix, de la substitution de celui qui est mort à notre place, ressuscité pour nous ouvrir la voie, nous inonde de reconnaissance si nous marchons avec lui, nous attire vers lui si nous n'avons pas commencé à marcher avec lui par la foi. Engagement et promesse, un dernier verset qui est déjà affiché. Qui peut nous condamner ? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous condamner ? Personne. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, celui qui a dit sur la croix, « Tout est accompli », empêche quiconque de nous condamner. Jésus-Christ est mort, on retrouve ce duo inséparable. Jésus-Christ est mort, il a été condamné à notre place et il est ressuscité, il est victorieux, il est à la droite de Dieu, il est assis à la place d'honneur. Et la très bonne nouvelle pour Virginie et pour nous tous, c'est que Jésus-Christ prie pour nous. Virginie a dit sa joie de faire partie d'une famille. Beaucoup l'ont redit les dernières semaines lors de différents témoignages. Et il est bon de s'épauler les uns les autres. Mais quel mystère merveilleux et affirmation claire. Jésus-Christ prie pour Virginie. Jésus-Christ prie pour chacun d'entre nous parce qu'il veut que nous continuions le chemin. Entendons l'Évangile, recevons l'Évangile et répondons à l'appel de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour tous ces textes qui nous expliquent comment tu as avancé pour nous offrir le salut. Merci d'avoir accepté ce qui nous dépasse, mais que nous lisons, que nous comprenons au moins partiellement. Tu as été maudit à notre place et je t'adore. Notre Dieu, nous t'adorons aussi, nous nous prosternons devant toi parce que tu es le grand vainqueur. Tu es ressuscité, tu es le vivant. Tu intercèdes pour nous en ce moment même. Tu nous tiens par la main, tu nous accompagnes. Tu es le bon berger. Merci parce que tu es le bon berger pour Virginie. Tu veux l'être pour nous tous dans cette salle. Pour certains d'entre nous, tu l'es depuis de longues années. Pour d'autres, tu peux le devenir maintenant même. Et nous te demandons de toucher nos cœurs pour que la beauté de ce salut que tu nous offres nous attire fortement vers toi et nous garde attachés à toi. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.